Radio Cité Genève.
92.2.
92.2. Et si les métiers de la santé et du social nous faisaient de nouveau rêver? Vibration, échographie d'un métier, un podcast du Centre d'information et de promotion, le 28. Regard subtil et émouvant, au-delà des stéréotypes sur les métiers de la santé et du social. Notre mascotte télé, le Piaf, oui, un petit oiseau, nous emmène dans des récits de vie sans tabou, honnêtes et inspirants. Maintenant, Maître Piaf, sur un arbre perché, nous tient à peu près ce langage.
Oh là là, je suis tout chamboulé. Et vous savez pourquoi?
Ben d'abord, parce que le 28, le Centre d'information et de promotion des métiers de la santé et du social de Genève vient de me désigner comme nouvelle mascotte officielle de ce podcast sur la vie des ergothérapeutes. Quelle classe! Moi qui ne fais que bailler aux corneilles et regarder les passants qui passent. Et justement, je me suis perché dans un marronnier, juste devant leur tra. C'est au quartier des Charmilles, à Genève. Depuis plusieurs jours, il en passe du monde par ici. Quelquefois, il me laisse même des miettes de sandwich et aussi pas mal de paroles. Ces jeunes qui veulent se former ici. Alors moi, j'ai tendu l'oreille. Et cui, et quoi. Ils nous en racontent, et particulièrement les ergothérapeutes. Bon, pour vous donner une idée, allons découvrir les intervenants de notre podcast.
Nourdine Bouchadane, ergothérapeute.
Anaïs Martin, ergothérapeute.
Stéphanie Weber, ergothérapeute en pédiatrie indépendante.
Ken Tabata, ergothérapeute à l'école et internat Clairbois-Lancy.
Dans leur lieu de travail, ils nous permettent de nous retrouver au cœur de l'activité et partagent quelques anecdotes pour nous mettre en situation.
Stéphanie Weber, alors ma salle d'ergo se trouve au Petit Lancy. Je suis spécialisée avec les enfants entre 0 et 4 ans. Donc le travail consiste vraiment à être en relation avec l'enfant, mais aussi en relation avec le parent, pour pouvoir lui apporter des réponses. Juste avant les vacances, il y a un petit garçon qui a fait ses premiers pas ici. Donc c'était beaucoup d'émotions pour la maman qui s'y attendait pas. Déjà ça c'était fantastique. Une autre situation qui m'a aussi beaucoup touchée, c'est une petite fille qui a un syndrome. On vient de découvrir qu'elle a un syndrome assez grave. Donc les parents ont appris ça aussi quasiment dans mon cabinet. Ils sortaient de chez la neurologue, donc c'était c'était clairement douloureux. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est juste en écoutant ses parents, puis en leur montrant que leur petite fille, malgré tout ce qu'ils imaginent, était capable tout d'un coup de prendre appui, puis de réussir un petit peu à s'asseoir et de se maintenir, le papa était en pleurs. Donc voilà, ça c'était aussi complètement extraordinaire pour moi, de me dire, ben tiens, en montrant juste une petite chose, que leur fille a des capacités, ça a changé la vision du papa qui m'a dit, vous m'avez redonné confiance en la motricité de ma fille. Voilà, moi je demande pas plus. Enfin, c'est énorme, hein, mais moi j'ai besoin de voir que le parent adhère à ce que je fais. J'ai besoin de voir que l'enfant, parce que pour moi les petits c'est vraiment la crème de l'humanité. Donc j'ai besoin de voir que le petit il est en confiance, qu'il a envie, qu'il me regarde, qu'il me sourit. Moi si un enfant me sourit, j'ai gagné ma séance. Donc ça c'était le deuxième. Et la troisième, c'est un petit garçon qui me touche beaucoup. Parce que j'ai découvert, grâce à lui, les foyers pour tout petit. Et c'est quelque chose qui me bouleverse aussi. Donc voilà, moi j'ai besoin, je crois, d'être un peu bouleversée pour y aller à fond.
Ken Tabata, j'accompagne des enfants qui ont des difficultés, peu importe les difficultés, mais en tout cas beaucoup de difficultés, et que ces enfants puissent justement accéder simplement le loisir, voir la scolarité et aussi tout simplement passer des bons moments avec la famille. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est vraiment le retour des enfants, le sourire. Si c'est pas les sourires, ne serait-ce que les réactions des enfants. Ça, c'est des fois, je dis, mais juste ça, c'est déjà valorisant pour moi. Le métier d'ergothérapeute thérapie, c'est aussi difficile à expliquer parce que ça touche tous les domaines. Tout âge, ça peut aller de la petite enfance jusqu'aux personnes âgées, ça peut être justement dans un milieu hospitalier, voire à une institution comme ici, l'école, l'EMS, et même on peut aller beaucoup plus loin. J'ai pu aussi rencontrer des ergothérapeutes dans le monde du sport, pour justement le handisport, aujourd'hui on en parle beaucoup, paralympique, et aussi dans le voie, par exemple, public, l'urbanisme, comme le TPG, tout ça, pour l'accessibilité. Donc au final, c'est évolutif, parce que si on veut changer de population, changer un peu de pratique, il y a plusieurs portes qu'on peut choisir. Et dans toute ma carrière, ça fait 13 ans que je suis ergothérapeute, j'ai jamais entendu un ergo au chômage.
Anaïs Martin, moi je travaille en santé mentale et plus précisément en psychiatrie. Et actuellement, je suis dans un centre de consultation. Donc, les personnes sont à leur domicile et elles viennent au cabinet, on va dire, où j'interviens aussi à domicile. Je pense à un monsieur déprimé depuis longtemps et puis qui là commençait vraiment à se désespérer et donc est en demande de pouvoir agir un peu là-dessus. Et c'est un monsieur qui aime beaucoup se balader, sortir de chez lui, mais qui n'arrive pas à le faire seul, dû à sa dépression. Donc là, on a vraiment essayé de se rencontrer dans les balades, les sorties que vous aimez faire. Et puis il a commencé à pouvoir se raconter que ce soit les sorties avec son ami, les visites qu'il faisait avant au musée, enfin vraiment de partir d'activités qu'il aimait faire, quoi. Du coup, après, c'était vraiment de se dire, on va pouvoir réactiver ensemble le fait de sortir de la maison. Donc c'est de regarder où est-ce qu'il aimerait déjà se balader, à quel moment de la journée, on va le faire ensemble. Et puis après, c'est essayer, en le faisant plusieurs fois ensemble, de réactiver aussi son envie et de qu'il se sente capable de pouvoir sortir lui après un peu plus seul ou de nouveau avec son ami, enfin de réactiver vraiment ça.
Nourdine Bouchadane, depuis 2019, je suis à l'IMAD, dans les soins à domicile. J'ai un monsieur qui ne sortait plus du tout de chez lui depuis 5 ou 6 mois. Voilà, qui avait fait un AVC, qui avait fait de la rééducation en ce qu'on appelle un centre de rééducation fonctionnelle. Et j'ai été alerté par son médecin traitant qui me dit que voilà, monsieur perd de plus en plus ses capacités à se mouvoir. Ça se voit à la maison. Alors à la maison, il était encore indépendant pour se déplacer. Mais par contre, il n'allait plus chercher son courrier. Donc en fait, c'était la porte d'entrée. Et puis au final, au fil des semaines, on a construit quelque chose de façon à aller de plus en plus loin, par exemple dehors, avec la mise en place d'un rollator. Voilà, c'est ce qu'on voit un peu dehors, un outil d'aide à la déambulation à quatre roues, voilà, un rollator, ce que les gens appellent vulgairement un déambulateur. Voilà. Mais c'est un abus de langage, parce que des fois on parle plutôt de quatre de marche, mais voilà, là c'était un rollator. Et l'idée c'était de voir jusqu'où il pouvait marcher. En fait, ce monsieur, je me suis rendu compte que à chaque séance, il me demandait un peu plus pour au final me dire, écoutez, j'ai un hangar à tel endroit. Ça fait 2 ans que je n'y suis plus allé et j'ai plein de choses que je veux récupérer, donner ou débarrasser. Et en fait, c'est un endroit où il n'était plus allé vraiment depuis des mois et il voulait savoir s'il était toujours présent. Donc on a mis comme objectif d'aller voir d'aller jusqu'à ce fameux hangar. Donc il a pu l'ouvrir et là, à l'intérieur, ça fait partie pour moi des choses qui m'ont marqué parce que je vous la raconte, c'est des années en arrière. Mais il a sorti un vieux tourne-disque, tout simplement. Donc il a sorti un vieux tourne-disque, est-ce qu'il marche encore? Et puis il a mis des vieux CD. Et puis ce qui s'est passé, c'est que il a récupéré, on a pris le tourne-disque, on l'a mis dans son rollator, puisqu'il y avait un panier, on est retourné chez lui, et monsieur a racheté un mini-piano synthétiseur et s'est mis à rejouer sur des morceaux qu'il aimait bien. Et je savais même pas qu'il faisait de la musique il y a quelques années en arrière. Ça faisait une vingtaine d'années qu'il n'avait plus touché à ça, parce qu'il s'en pensait plus capable. J'aime à dire que c'est chaque thérapie ergothérapeute dépendant, mais je pense plus que c'est la personnalité qui compte, la créativité qu'on a au fond. Si on laisse s'exprimer notre créativité, on peut aller très loin dans la pratique. On est tous formés en tant que ergothérapeute d'un niveau bachelor initialement, mais dans une thérapie, on peut faire des choses qui sont complètement différentes l'un de l'autre. Mais c'est pas pour autant que l'un apporte moins qu'à l'autre, c'est qu'on apporte notre personnalité.
En voilà des belles histoires et des rencontres pour un travail de la santé quelquefois peu connu. et comme vous l'avez entendu, qui se pratiquent dans des lieux et avec des publics très différents. Alors on a demandé à nos ergothérapeutes une présentation de leur activité professionnelle.
Alors l'ergothérapie, c'est la rééducation au travers de l'activité. Activité de tous les jours, jeux, loisirs, sport, enfin voilà. Après ça dépend dans quel domaine on travaille. L'ergothérapie en pédiatrie, de mon point de vue, c'est vraiment d'être très au clair sur le développement du nouveau-né, le développement sur la première année de vie, pour pouvoir reprendre, même avec un enfant de 4 ans, reprendre toutes ces étapes qu'il n'a peut-être pas fait de manière efficiente, donc il a loupé quelque part, il y a certaines étapes qu'il n'a pas réussi à accomplir, du coup ça le péjore pour les mouvements pour la suite. Typiquement un exemple assez concret, très souvent on a des demandes pour des enfants où c'est la maîtresse qui dit il a de la peine à écrire, trouble du graphisme, etc. Puis, c'est pas un trouble pour moi, dans les enfants que je vois ici, pour moi c'est pas un trouble au niveau du graphisme, c'est des enfants qui n'ont souvent pas fait de quatre pattes, qui n'ont pas fait les bons appuis au niveau des membres sup, les membres supérieurs. Du coup, ils ont une mauvaise stabilité au niveau des épaules, donc du coup, la motricité fine... Enfin, voilà, c'est tout un cheminement à reprendre avec le parent. C'est pour ça que j'aime bien demander aux parents, mais qu'est-ce que votre enfant a fait? À quel âge? Comment? Combien de temps? Ben, ça donne vraiment des pistes pour le travail avec l'enfant. Et très souvent, c'est aussi quelque chose pour moi qui est très, très important. Je dis aux parents, si dans les 3 mois où vous venez me voir, il ne se passe rien, c'est que ce n'est pas la bonne piste.
Déjà thérapeute, déjà je suis soignant, je suis partie d'une équipe soignante parce qu'on a tendance à nous, notamment dans les soins à domicile, à identifier l'ergothérapeute comme celui qui vient mettre du matériel en place. On est soignant, le matériel c'est un moyen, voilà, c'est un outil dans la pratique. Moi je viens d'abord en tant que soignant, c'est celui qui va prendre soin d'eux. Et voilà l'étiquette que moi j'ai, je suis d'abord avant tout un professionnel soignant qui vient pour le mieux-être, pour améliorer la santé de la personne, dans différents aspects. Les infirmières, elles vont travailler sur des aspects somatiques, métaboliques, et moi, je vais travailler sur d'autres aspects du quotidien. Mais c'est des pratiques qui sont complémentaires. Il faut se dire qu'on est une profession qui est réglementée, on est à la LAMAL, c'est-à-dire qu'on intervient sur prescription médicale. Quoi qu'il arrive, il y a le médecin, docteur en médecine, que ce soit un médecin traitant, médecin généraliste, qu'un praticien hospitalier, un médecin spécialiste, rhumatologue, neurologue, peu importe, mais un docteur en médecine. Et à l'issue de cette ordonnance ou prescription, on peut intervenir. Mais cette prescription, elle est le point de départ de notre intervention, elle nous permet d'intervenir. Mais après, les demandes, elles sont issues de plusieurs origines. Ça peut être une infirmière qui a trouvé qu'à un moment donné, il y avait des signaux d'alerte au domicile, la famille ou la personne, le client ou patient lui-même. Et à ce moment-là, effectivement, on vient et quand c'est le client ou le patient qui nous interpelle et qu'on sollicite le médecin traitant pour une ordonnance, on va dire que l'intervention, elle est facilitée parce qu'il est déjà preneur de notre intervention, ce qui n'est pas toujours le cas. Et pour nous, ça rend confortable parce qu'il a déjà identifié quelque chose. Là où on a parfois des difficultés, c'est que la demande, elle n'est pas en lien avec le besoin. Voilà, on a une personne qui nous dit, je veux absolument un rollator, ça m'est arrivé, encore une anecdote, je veux absolument un rollator chez moi, c'est corroboré par le médecin traitant, effectivement la personne m'a déplacé chez elle, je ne connaissais pas la personne, puis j'arrive au domicile, je ne peux pas faire 2 pas. En fait, l'appartement très encombré et la personne a un syndrome de Diogène, c'est-à-dire qu'elle a tendance à emmagasiner, entasser, accumuler les choses chez elle sans forcément s'en rendre compte, mais en attachant de l'importance au fait d'avoir ces choses-là. Même des bibelots, mais des vieux journaux qui datent, des annuaires téléphoniques qui datent d'il y a une trentaine d'années, il faut les conserver, etc. Pas mordicus, il n'y a pas possibilité de les jeter. Donc voilà, moi je me refuse à mettre en place un rollator dans ces situations-là parce que justement, là, je ne vais pas aider la personne. Je vais la mettre plus en difficulté. Donc l'idée, c'est d'abord travailler avec mes collègues ou des infirmiers en santé mentale ou avec le psychiatre, s'il y en a un qui suit cette personne, pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut mieux aménager l'appartement sans perturber la personne dans le fait que elle se sent bien finalement dans cet environnement où elle a des choses qui la contiennent, qui la rassurent, de posséder des choses et de les avoir à droite à gauche. Voilà.
Alors ici à Clairebas, je me considère comme un spécialiste d'activité. Nous accueillons des enfants en situation de pôle handicap. Ils ont beaucoup de difficultés à faire des activités eux-mêmes. Dès qu'il y a des difficultés, c'est là qu'on essaie de trouver des solutions, de la vie quotidienne jusqu'à aussi des loisirs. Il peut y avoir plusieurs situations différentes. Des fois, ça peut être simplement des enfants qui ont des troubles moteurs, qui ont vraiment des difficultés, voire ils n'arrivent pas à se mouvoir. Et justement, c'est aussi pour qu'ils puissent accéder, ne serait-ce qu'à la communication. Et on cherche, par exemple, des petits mouvements de travail, des petits mouvements au niveau des mains, de coups, des jambes. Mais aussi pour se mouvoir, il faut être bien positionné. Donc c'est là qu'on travaille avec les fauteuils roulants, le positionnement, aussi de trouver d'autres moyens d'installation au lit aussi pour qu'ils puissent se reposer, sont aussi à détériorer leurs déformations qui sont déjà présentes. Ou aussi inversement, il y a des enfants qui sont, on appelle ici marcheurs, mais qui se déplacent, mais au contraire qui ont des troubles plutôt de comportement. Donc là on essaie plutôt de canaliser, de structurer, de comment trouver justement un environnement pour que ces enfants puissent être concentrés, ne serait-ce que soit durant une classe ou aussi des activités éducatives, par exemple simplement s'habiller, se brosser les dents, manger.
Oh là là, ils ont non des choses à dire, ces ergothérapeutes, sur Radio 28 aujourd'hui. Et alors moi, après leur journée de travail, je suis allé leur demander comment ils vivent le travail en équipe dans leur métier.
Le travail d'équipe, en fait, est extrêmement important. Le travail d'équipe avec les autres professionnels aussi. Surtout, on va dire, parce qu'autour d'un cas, autour d'un patient, il y a souvent d'autres professionnels de la santé qui gravitent. Et ce qui est très important, c'est d'avoir ce réseau-là pour qu'on travaille tous dans le même sens. Donc le travail d'équipe, pluridisciplinaire, interdisciplinaire, avec le parent aussi, puisque le parent fait partie de l'équipe. Et ce qui est intéressant, justement, quand on est indépendant et qu'on travaille seul, c'est qu'on développe un réseau dans la ville. Et du coup, ça nous permet aussi de rencontrer d'autres professionnels qui ne sont pas forcément dans les institutions, de faire des réseaux à l'extérieur ou même dans les familles. Et ça, c'est aussi super important de faire un réseau sur le lieu de vie.
Alors oui, moi je travaille aussi beaucoup en équipe parce que j'ai dans la consultation, il y a des médecins, des psychologues, des infirmiers, des psychomotriciens, enfin voilà. Et je pense que aussi quand on est indépendant et à domicile, il y a quand même toujours le relais avec le médecin prescripteur ou les autres intervenants à domicile comme l'infirmier, le physio, mais aussi beaucoup avec les proches. Je pense qu'il ne faut pas les oublier aussi comme des partenaires de soins et qui font partie souvent du coup de l'environnement de la personne. Donc il y a l'équipe médicale et puis aussi l'environnement familial, social.
Le travail d'équipe, c'est essentiel, c'est primordial et c'est tout le temps. On travaille avec énormément de monde, donc in situ, IMAD, avec là mes plus proches collaborateurs, collaboratrices, ce sont les infirmières, les ASSC, voilà, avec qui on travaille tous les jours et on œuvre pour le patient qui est au centre de tout ça. Ma pratique, celle des infirmières, on va influer les uns sur les autres. Si vous voulez, je vais vous donner un exemple dans une situation où on a une personne qui avait effectivement aussi une post-AVC avec une pathologie très invalidante, personne en fauteuil roulant électrique toute la journée. Des soignants qui me disaient je me casse le dos, on n'y arrive plus, etc. Donc après une refonte de la situation, je me souviens, c'était pendant la période du Covid, où on a mis en commun un peu les difficultés de chacune et de chacun. J'ai repensé l'intérieur. C'est là où on a mis le rail, ce fameux rail au plafond, qui était une idée où on n'en a pas. En fait, même en institution, des fois, il n'y en a pas. Donc, on a pu réussir à aménager l'appartement. Après, dans le travail d'équipe, ce qui est important, de pouvoir être à l'écoute et de savoir que les infirmières ou les SSC peuvent faire appel à nous pour répondre à des problématiques. Le point, ou en tout cas l'axe central, c'est le patient, le client lui-même, c'est son bien-être et son confort. Mais si on ne travaille pas dans de bonnes dispositions, c'est-à-dire avec le matériel dont on a besoin, on ne va pas respecter ça et on va mettre en danger les collègues. Donc on a ce rôle aussi dans le travail d'équipe de prévention des risques liés à l'activité au travail, prévention des troubles musculo-squelettiques, etc. Parce qu'elles, elles font des métiers où elles chargent énormément et l'idée, c'est de faire en sorte qu'elles se protègent.
Alors, c'est vrai qu'ici, c'est le pôle handicap, donc je pense qu'une des compétences qu'on nous demande, c'est vraiment le côté flexibilité. Parce que nous, en plus, nous accueillons des enfants qui vont de 7 ans à 18 ans. Il y a aussi l'adolescence, il y a l'évolution. Donc en fait, même si on trouve une astuce à un instant T, dans l'année suivante, est-ce que c'est la même? En fait, ça change tout le temps. Donc il faut tout le temps se remettre en question. Et c'est là aussi le travail d'équipe, c'est important parce que moi, je le vois qu'un seul petit moment dans la journée. Les éducateurs voient un peu plus longtemps. Il y a aussi d'autres collègues qui vont à un autre instant dans la journée. Et c'est là qu'en fait, le travail d'équipe est très important parce que c'est vraiment le côté flexibilité. Comme c'est le pôle handicap, en effet, ça touche plusieurs sphères. Moteur, sensoriel, psychique aussi. Donc on ne peut pas tout faire. C'est vrai que sur papier, j'aimerais bien faire plein de choses, mais bien sûr, il faut prioriser. Et, et c'est là que justement, c'est un travail d'équipe. Tel professionnel travaille plus sur l'aspect cognitif. Moi, je travaille plus sur l'aspect positionnement, par exemple. C'est vraiment un peu ma spécialité. Les physiothérapeutes travaillent plus sur le côté moteur. Et c'est là qu'on essaie justement que l'enfant puisse travailler plusieurs sphères avec divers professionnels.
Et si les métiers de la santé et du social nous faisaient de nouveau rêver? Vibration, échographie d'un métier. Un podcast du Centre d'information et de promotion, le 28. Regard subtil et émouvant, au-delà des stéréotypes sur les métiers de la santé et du social.
Voilà, vous avez pris du bon temps, j'espère. Et encore merci à Noureddine Bouchadane, Stéphanie Weber, Anaïs Martin et Ken Tabata, ergothérapeutes qui m'ont permis de divulguer ces informations passionnantes. Et moi, je vais retourner dans mon marronnier, juste au-dessus du bâtiment où se trouve l'Ortra et le 28, centre de promotion et d'information des métiers santé et social, qui m'ont bien motivé à vous partager ce podcast. D'ailleurs, l'air de rien, on revient avec une deuxième partie en compagnie de nos ergothérapeutes. À tout bientôt. Cui cui, coin coin, et à la prochaine. Ah oui, au fait, le podcast, vous pouvez le partager depuis notre site ortra-ge.ch et sur les plateformes podcast. Cette fois-ci, en vrai, je décolle.